Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure du podcast des maternelles, podcast France Télévisions, c'est parti. Le podcast des maternelles et aujourd'hui, on parle d'un sujet important qui concerne, selon les statistiques, une femme sur 10, l'endométriose. L'endométriose, on va entendre le témoignage de Caroline, qui est la maman d'Amandine et de Camille, et puis nous serons avec une gynécologue. Non, ce serait bizarre d'avoir une gynécologue spécialiste des gilets. Non, une gynécologue obstétricienne qui s'appelle... Un gynécologue d'ailleurs, pourquoi je disais une gynécologue? Bon bref, vous voyez, c'est vendredi pour tout le monde. Allez, on écoute donc ce gynécologue obstétricien qui s'appelle Louis Marcelin, juste après avoir entendu Caroline avec Agathe Le Caron. C'est parti.
Alors l'endométriose, Benjamin en a parlé dans son journal, c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Donc c'est énorme, ça se caractérise notamment par des douleurs atroces au moment des règles, des problèmes de fertilité, ça fait partie des grandes causes de l'infertilité. Bonjour Caroline.
Bonjour Agathe.
Bon déjà, si j'avais voulu mettre du suspense dans cette discussion, c'est mort.
Hein, Caroline, déjà
parce que là, avec le petit bébé dans les bras. Caroline, vous habitez à Brest, vous avez 33 ans, vous êtes l'heureuse maman d'Amandine qui n'est pas là, qui a 2 ans et demi, et de Camille qui est dans vos bras, qui a 2 mois la petite pitchounette. Elle est trop mignonne. Votre endométriose, elle a été diagnostiquée à l'âge de 17 ans, donc assez tôt. Vous avez remué ciel et terre pendant des années pour devenir maman. On le voit, ça a marché. Donc c'est gentil d'être là pour nous raconter l'arrivée de vos 2 bébés miracles qui, j'en suis sûre, vont donner de l'espoir aux jeunes femmes qui nous regardent, qui vivent la même chose que vous. Alors avant de découvrir que vous étiez atteinte d'endométriose, comment se passaient vos règles?
Alors j'ai été réglée très jeune déjà. Et les premiers souvenirs que j'ai, c'est que ça a été extrêmement douloureux très rapidement, très sanglant aussi. Je me revois encore dans ma chambre, petite, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je n'étais pas vieille, en position fœtale, à pleurer. Alors j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a écoutée, qui m'a cru et qui m'a emmenée voir un médecin, le généraliste, qui m'a mis sous anti-inflammatoire. Mais ça a aidé, mais ce n'était pas suffisant. Et du coup, voilà, jusqu'à mes 17-18 ans, on ne savait pas du tout pourquoi j'étais si
douloureuse.
C'était
des douleurs insupportables ?
Atroce, à en pleurer, à ne plus pouvoir rien faire, plus pouvoir jouer. Il y a un enfant qui ne joue pas ou une jeune fille qui ne joue pas.
Il n'y a rien qui soulage, pas de médicaments,
alors,
pas d'astuces.
Les anti-inflammatoires aident un petit peu, mais vraiment, c'est très, très léger.
Alors, à 17 ans, vous avez commencé des études d'infirmière. Est-ce qu'à cet âge-là, les douleurs étaient aussi fortes que ça? Parce que quand on commence, bon, déjà au lycée, c'est compliqué, mais alors quand on commence à travailler...
Ça devient autre chose encore, ouais. En fait, c'est à ce moment-là, je pense que ça a été... Les douleurs sont devenues insupportables, ingérables. Je me souviens de faire des malaises en amphithéâtre, de me cacher pour aller pleurer dans les toilettes. Ou en stage, on est en blouse blanche, alors quand on a des hémorragies, c'est un peu compliqué à gérer. De rester debout, s'occuper des patients, quand soi-même, on n'est pas en forme, c'est compliqué.
Oui, parce qu'il y a les douleurs, il y a aussi les hémorragies. C'est-à-dire que vous perdez des litres et des litres de sang.
Énormément, oui.
Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on vous dit quand vous allez consulter?
On ne savait pas trop, en fait. On disait, au bout d'un moment, quand même, j'ai été faire une échographie, on voyait du liquide dans le ventre, on ne savait pas ce que c'était. Personne n'a pensé à endométriose. Ils se demandaient si ce n'était pas d'ordre digestif.
Ah oui, ils ne sont pas allés chercher plus loin?
Non. Non, non.
Alors, c'est quand donc vous faites vos études d'infirmière, vous avez des hémorragies, puis à ce moment-là, vous avez une crise vraiment particulièrement violente. Vous allez à l'hôpital, et là, enfin, vous obtenez un diagnostic.
Oui. Alors du coup, oui, après plusieurs passages aux urgences, enfin, le chirurgien se dit, enfin, le gynéco que j'ai été voir me dit, on va opérer, on va voir ce qui se passe, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Et suite à ça, effectivement, la scioscopie a révélé une endométriose, donc je ne connaissais pas. Il est venu me dire au pied de mon lit dans la chambre d'hôpital, voilà, vous avez une endométriose. Il avait une tête d'enterrement, donc ça a été un peu...
Et vous ne savez pas ce que c'était, j'imagine?
Non, je ne connaissais pas encore, je n'avais pas encore étudié le module en école d'infirmière. Et en fait, ça a été un peu violent parce que, heureusement, ça y est, j'avais un diagnostic. Donc ça, c'était quand même un soulagement, mais je ne savais pas ce que c'était. Et la façon dont ça m'a été annoncé était vraiment terrible, parce qu'il m'a dit, ce sera un miracle si un jour vous avez un enfant. Et une autre phrase, pareil, j'ai qu'une envie, c'est d'arracher votre utérus. Vu l'état dans lequel est votre abdomen, il y en a partout. Tous les organes presque étaient touchés au niveau digestif. Vraiment, et du coup, moi, cette phrase m'est restée en tête. Enfin, c'est un miracle si un jour vous avez un enfant.
Donc, à la fois, vous vous dites, j'ai pas rêvé mes douleurs, j'avais bien quelque chose, donc ça légitime aussi tout ce que vous avez vécu.
Complètement.
Et en même temps, C'est atroce pour une jeune femme de cet âge-là d'entendre qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc, je rappelle que l'endométriose, ce sont des cellules utérines qui vont donc s'implanter et proliférer sur d'autres organes que l'abdomen. Et on peut en avoir partout, d'ailleurs. On en parlera avec notre spécialiste tout à l'heure. Donc, une fois le diagnostic posé, quel protocole est mis en place pour vous aider à mieux vivre ces règles ultra douloureuses et avoir une vie de jeune fille normale?
Alors, on m'a proposé, après la chirurgie, on m'a proposé de faire une ménopause artificielle. Alors, à 18 ans, à ce moment-là, c'est un peu rude. Mais donc, c'est un principe injection, des injections qui ont un effet sur une libération progène, qui a un effet sur 6 mois en théorie, pour stopper complètement les cycles. En réalité, chez moi, j'étais a priori assez résistante au point de vue hormonal, parce qu'au bout de 3 mois, ça ne fonctionnait plus. J'ai eu 3 injections au total, et au bout de la troisième, en 1 mois, ça ne marchait plus. Donc, il a fallu revoir le protocole.
Vous avez
eu
les symptômes de ménopause aussi, les bouffées de chaleur et tout ça?
Voilà, donc à 18 ans, exactement, tachycardie, bouffées de chaleur, nervosité. Ça faisait rire mes copines, mais j'en pouvais plus. À chaque fois, j'ouvrais les fenêtres, il fait trop chaud dans la pièce. Non, non, Karine, c'est toi qui rêves. et puis, quelque chose. Enfin, psychologiquement, c'était un peu bizarre aussi, quand même. Un peu tôt. Donc après, j'ai été réopérée à nouveau célioscopie par le même gynéco. L'endométriose s'était un peu stabilisée, n'avait pas trop évolué grâce à ce traitement quand même. Et ensuite, il a fallu repenser quand même sur le long terme parce que j'étais encore très jeune. Du coup, on a testé plusieurs traitements hormonaux. Mmh. Et enfin, on a testé, j'avais à peu près 20 ans quand j'ai démarré des progestatifs en continu, assez dosés, qui stoppaient complètement les cycles. Donc, ce n'est pas anodin, c'est quand même assez lourd. Je n'ai pas trop mal toléré au bout d'un moment, après avoir fait plein d'essais très compliqués à gérer, on va dire. Celui-ci fonctionnait.
Ce n'est pas l'idéal, c'est sûr que ça a enlevé les règles, se gaver d'hormones. Alors, en plus, là, à ce moment-là, vous rencontrez votre conjoint. Évidemment, vous lui parlez de votre maladie. Et à l'été 2016, vous le rejoignez à Brest. Vous décidez d'arrêter votre traitement pour mettre un bébé en route. C'est-à-dire que quand même, vous aviez toujours dans la tête que ce couperet que le gynéco vous avait donné n'était pas une fatalité. Vous vouliez quand même aller au-delà de ce diagnostic-là.
Ah oui, j'ai jamais voulu l'accepter, même si ça m'est resté dans un coin de la tête toute ma vie et que je l'ai toujours bien en tête. Tous les deux, on avait vraiment à cœur d'avoir un ou plusieurs enfants, même si possible. Du coup, j'ai arrêté complètement mon traitement. Donc, après 10 ans de traitement continu, le retour a été extrêmement violent. En fait, mes cycles sont revenus, mais de façon cataclysmique. Ouais, je vais m'être un peu violente. Moi, j'avais le terme boucherie en tête parce que je me suis mise à saigner, mais en continu, c'était des flux, des douleurs qui sont revenues très, très fortes. J'étais assez déstabilisée parce que finalement, mon mari ne m'avait jamais vue comme ça. J'étais un peu stabilisée quand on s'est rencontrés. Et là, il découvrait la réalité de la maladie. Donc ça, c'était un peu dur. J'étais gênée, moi, vis-à-vis de lui. Maintenant, il est extra, j'ai de la chance. Mais paniquée, j'ai appelé mon ancien gynéco parce qu'habitant à Brest, je n'avais pas encore mon nouveau réseau médical, on va dire, qui m'a dit, soit vous reprenez des hormones, on stoppe tout. Je dis, on aimerait avoir un enfant. Soit on fait une stimulation ovarienne. Et du coup, pour moi, ça ne répondait pas à mon souhait, à notre désir. C'est vrai que j'avais très à cœur depuis toujours de croire en la nature, de me dire que c'était quand même possible sans avoir une assistance médicale énorme.
Vous n'aviez pas entendu parler de PMA, c'était
non,
trop tôt.
Non, c'était trop tôt, je n'étais pas prête à ça et j'y tenais pas spécialement. Ouais.
Vous avez frappé à toutes les portes, vous avez vu 1 milliard de spécialistes.
Ah oui, alors j'ai tout touché à tout, on a fait ostéo, kiné, magnétiseur, kinésiologue, je ne connaissais pas avant. J'étais même voir, je l'appelle un gourou, mais quelqu'un qui avait un talent, un don. Ça m'a un petit peu aidée, il y a eu des petits soulagements très très brefs de détente physique, mais rien de... Absolument rien d'efficace.
Vous êtes quand même tombée enceinte?
Ouais, ouais. Grande joie, je suis tombée enceinte au bout de 13 mois à peu près. On n'y croyait pas, c'était merveilleux. Et puis ça y est, du coup pour moi tout était bon, c'était bon. Sauf que ça n'a pas été si simple. J'ai rapidement fait une grossesse extra-utérine. Donc ça c'est la poisse, on ne peut pas sauver le bébé. Il y a un gros risque pour la maman également.
Et puis c'est hyper douloureux aussi.
Voilà, à nouveau douleur, saignement et compagnie. Donc j'ai été opérée en urgence. Ça n'a pas suffi, j'ai eu en plus des injections de méthotrexate derrière, donc un peu lourde. J'allais à l'hôpital tous les 2 jours, c'était très très surveillé parce que ça a été compliqué. Et puis moralement, un petit peu dur. Finalement, je suis retombée enceinte quand même 6 mois après, donc grande joie à nouveau, disons moi, chouette, c'est possible. Et à nouveau, fausse couche. Alors là, fausse couche simple, mais malgré tout, une grande souffrance.
Ça a dû être la déflagration pour vous.
Ouais, le moral a bien, bien chuté. Mais c'est pas possible. L'endométriose, j'avais intégré que ce serait compliqué d'avoir un enfant. Mais je ne pensais pas qu'une fois qu'une grossesse serait en route, que la grossesse serait dure à mener à terme.
Mmh. Alors finalement, à 29 ans, c'est en septembre 2017, vous découvrez une nouvelle grossesse et cette fois, c'est la bonne. Le miracle se produit. Mmh. Vous avez eu envie d'appeler le gynéco en lui disant « Dis-moi, juste t'appelle pour te dire que là, cette fois, c'est pas une grossesse. »
J'ai fait un mail. Honnêtement, j'ai fait un mail. Fait. Ah, voilà. C'est la troisième grossesse spontanée et a priori, ça se passe bien. J'ai pas fait de mail pour, bon, on se verra après, mais pour ma petite deuxième. Mais non, j'avais un peu envie de dire, ben zut, c'est possible.
Bon, alors ça, c'est formidable. Évidemment, vous avez votre bébé, vous défiez les lois de la nature. Mais avec le retour de couche, l'endométriose, parce que forcément, vous n'avez pas vos règles pendant la grossesse, donc c'est une parenthèse enchantée pour toutes les femmes qui sont atteintes de cette maladie. Une fois qu'on a le retour de couche, l'endométriose revient à grands pas, les douleurs avec, etc. Et vous vous dites, bah, tiens, je voudrais quand même essayer de faire un deuxième enfant. Et vous découvrez la naprotechnologie. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est, en quoi ça vous a aidé?
Oui. En fait, je me suis tournée vers eux. J'en avais entendu parler un petit peu par-ci, par-là, mais je n'osais pas, je ne savais pas trop ce que c'était. C'est en fait une approche médicale qui vient des États-Unis, qui a pour objectif de restaurer la fertilité du couple et pas forcément de donner une solution, entre guillemets, qui contourne le problème comme la PMA peut proposer et aider des couples. La naprotechnologie va vraiment chercher à régler le problème en priorité. Alors c'est médical, complètement médical, mais c'est aussi 100% naturel, comme le nom l'indique. Alors j'ai un accent américain ou anglais terrible, mais natural, procréative, technologie, avec vraiment des protocoles établis.
Donc il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas de...
Alors, il peut y avoir des hormones, mais à des moments très précis, pas en continu qui stoppe tout. C'est vu vraiment en fonction du cycle de la femme, en fonction du cas par cas, enfin vraiment au cas par cas. Et plutôt des hormones moins synthétiques, on va dire.
Bah écoutez, en tout cas, ça a marché pour vous, puisque 5 mois après, vous déjouez tous les pronostics des médecins et vous tombez enceinte. Aujourd'hui, comment ça va?
Alors, actuellement, ça va plutôt bien, parce que j'allaite, et grâce à l'allaitement, j'ai
l'allaitement, les hormones qui préservent. L'allaitement, ça calme les douleurs?
Ah oui. Au niveau hormonal, ça préserve quand même bien la maman. J'ai des petites douleurs qui sont revenues, mais qui sont minimes, mais qui, voilà, ça n'a rien à voir. Je ne vous cache pas que je redoute le retour de couche, parce que l'expérience précédente a été douloureuse.
Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes femmes qui souffrent d'endométriose aujourd'hui?
Je voudrais leur dire de s'accrocher, de garder confiance, de se faire confiance à elles-mêmes, de ne pas hésiter à frapper à plusieurs portes. Moi, j'ai dû suivre un régime strict anti-inflammatoire vu l'état de mon abdomen. C'était une inflammation telle que compliqué de tomber enceinte. Donc sans gluten, sans lactose, a priori, ça m'a quand même aidée. Personnellement, j'ai arrêté de travailler pour me recentrer sur moi et je pense que ça m'a bien aidée. Donc attention aussi à votre rythme. N'hésitez pas à changer de médecin si vous n'avez pas confiance, si une thérapeutique vous inquiète, pesez le pour, le contre. Faites-vous confiance vraiment. Gardez l'espoir, c'est possible. Alors je sais que tous les couples n'auront pas toujours cette chance-là. Je suis consciente qu'on a été gâtés, mais gardez l'espoir et vraiment frappez à toutes les portes autant que possible.
Docteur Louis Marcelin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité de Port-Royal à Paris. On l'a vu dans l'histoire de Caroline, il a fallu des années avant de poser un diagnostic. Pourtant, il y a des hémorragies, il y a des douleurs qui sont insupportables. Qu'est-ce qui explique cette errance diagnostique, même si je pense que ça va mieux, mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et puis comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit plus facile à déceler?
Alors d'abord, le parcours de Caroline est un parcours un peu typique de l'endométriose. Hein. C'est vraiment ces histoires incroyables de femmes qui vont se poser les questions de la douleur, ne pas avoir de réponse à ces douleurs, et ces douleurs qui vont commencer dès l'adolescence, aux premières règles, et qui vont se prolonger pendant des années, des années, des années. Et en fait, ce qui pose le problème, c'est de considérer qu'une femme qui a des règles hyperalgiques, des rapports sexuels douloureux, quand elle va aux toilettes, que c'est douloureux, c'est pas normal.
Ça doit alerter le médecin,
exactement.
Et on doit s'arrêter là-dessus.
Mais c'est cette considération que ça peut être dans la tête, ou c'est normal, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, ou qu'on est douillette. Non, c'est pas vrai. Alors, bien sûr que les règles, ça peut être un peu sensible et désagréable, mais quand c'est hyperalgique, c'est pas normal. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir poser les bonnes questions. Et on a montré là récemment, on a fait une publication sur un travail où si on pose les bonnes questions, eh bien, on arrive à cette suspicion d'endométriose qui va ensuite aboutir à réaliser des examens qu'il faut, une échographie, une IRM, pour identifier la maladie quand c'est possible à l'imagerie.
Caroline nous a parlé de la méthode NAPRO, vous
connaissez? Oui, alors j'ai entendu parler. Alors c'est une méthode qui peut être intéressante dans le coaching, je dirais, des femmes pour qui la conception spontanée est possible. C'est-à-dire que si, malheureusement, il y a un obstacle à la conception spontanée par un problème de trompe, un problème de réserve ovarienne, un problème de sperme du conjoint, si la conception spontanée n'est pas possible, la naprotechnologie ne va pas permettre de concevoir spontanément. Mais c'est une technique qui paraît intéressante parce qu'elle va permettre d'accompagner les femmes lorsque la conception spontanée est envisageable.
D'accord. On a reçu une question en vidéo d'Élodie. Pour vous, elle a besoin de vos lumières. Regardez.
Bonjour à toute l'équipe de la Maison des Maternelles. Je m'appelle Élodie. Je suis atteinte d'endométriose et du syndrome des ovaires polykystiques. Je suis actuellement enceinte de mon deuxième enfant. Mais la maladie s'étant aggravée après ma première grossesse, donc 8 ans avant de réussir à avoir notre deuxième merveille, je souhaiterais savoir si les risques de complications durant l'accouchement sont plus importants chez les femmes souffrant de ces pathologies. Merci d'avance pour toutes vos réponses. Belle journée à tous.
Oui, alors, sur l'accouchement précisément.
Oui, alors effectivement, la question de la grossesse et de l'endométriose est une question qui doit se prendre de deux manières. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les conséquences de l'endométriose sur la grossesse, mais aussi les conséquences de la grossesse sur l'endométriose. Mmh. Dans notre équipe, avec le professeur Chaperon et le professeur Goffinet à Port-Royal, on a fait une étude qui, pour la première fois, a montré que finalement, les données sont très rassurantes et que les femmes qui ont l'endométriose, même si elles ont un parcours en amont de la grossesse qui va être très perturbé, chaotique parfois, très long. Une fois qu'elles sont enceintes, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un peu la parenthèse enchantée où finalement les symptômes vont s'amender. Il y a même des auteurs qui, il y a 50 ans, disaient la nature a trouvé le traitement d'endométriose qui était la grossesse. Mmh. Et effectivement, les hormones produites par le placenta vont considérablement améliorer, voire annuler tous les symptômes de l'endométriose. Alors ensuite, est-ce que la maladie va avoir des conséquences sur la grossesse? Écoutez, là, il y a beaucoup de données rétrospectives de qualité variable qui disent que peut-être il y a des sur-risques, mais je pense qu'il faut être extrêmement rassurant. Et on a montré, par exemple, qu'il n'y avait pas de sur-risque d'accouchement prématuré dans l'endométriose. Il peut y avoir alors, on a trouvé que les petits poids de naissance étaient peut-être un peu plus petits, mais de façon à la limite de la significativité. Et donc, je dirais que le message pour les femmes qui sont enceintes, c'est que l'endométriose ne pose pas de problème pendant la grossesse. Alors, bien sûr que ce n'est pas les mêmes grossesses parce que ce n'est pas les mêmes patientes et qu'elles n'ont pas le même vécu de leur pathologie gynécologique. Et donc, il faut avoir une écoute un peu particulière.
Mais vous êtes rassurant.
Je ne pense pas qu'il faille changer les pratiques de suivi habituel des grossesses des femmes qui ont l'endométriose.
Nouvelle question de Cécile, cette fois.
Ah, on n'a pas le son.
Ah, je peux faire la voix de Cécile.
Alors, faites la voix.
Ça y est, ça y est. De 5 et 3 ans et je suis atteinte d'endométriose depuis 13 ans. Je me pose aujourd'hui une question par rapport à l'hérédité de cette maladie et j'aimerais savoir quels sont les risques que mes enfants développent cette maladie un jour. Oui, je vous remercie pour votre réponse.
Ça, c'est une très bonne question. L'endométriose, c'est une maladie multifactorielle, très compliquée. Et il y a des composantes génétiques, il y a des composantes environnementales, il y a des composantes immunitaires. Et il faut être extrêmement rassurant sur le fait que ce n'est pas une maladie génétique qui va être transmise de mère en fille. Il y a des familles de femmes qui ont l'endométriose avec des histoires, des antécédents familiaux. D'ailleurs, l'antécédent familial d'endométriose, c'est un facteur de risque d'endométriose, mais ce n'est pas une maladie génétique au sens où elle va être transmise systématiquement. Donc, le message, pareil, extrêmement rassurant. Toutes les filles de femmes qui ont l'endométriose n'auront pas forcément l'endométriose.
Comment reconnaître les symptômes d'une éventuelle endométriose avant même peut-être d'en parler avec le médecin pour les parents qui nous regardent?
Alors, le maître mot de cette maladie, c'est l'hétérogénéité. Donc effectivement, les symptômes, quand on ne comprend pas, déjà, il faut se poser la question de savoir si ça peut pas être de l'endométriose. Ensuite, les symptômes, c'est les symptômes habituels, des douleurs de règles très importantes, des douleurs pendant les rapports sexuels qui sont parfois insoutenables au point qu'on ne puisse pas avoir une vie sexuelle normale. Il y a les douleurs digestives avec des constipations douloureuses, des dyskésies très importantes, même des rectorragies dans les formes les plus avancées.
Ça, c'est parce que, justement, il y a des lésions qui s'est mise sur les intestins, c'est ça?
Exactement. Et puis, il peut y avoir des lésions qui se mettent sur la vessie. Alors, on peut avoir des brûlures mictionnelles pendant les règles. Et donc, voilà, c'est ces cinq symptômes cardinaux qui sont en rapport avec la distribution des lésions et qui vont varier avec le cycle menstruel.
Il y a des endométrioses asymptomatiques?
Bien sûr. Alors, il y a des femmes, c'est étonnant, hein, qui vont avoir une endométriose très importante, mais qu'on ne verra pas, ou alors qu'on ne verra que lorsqu'il y aura des difficultés pour avoir une grossesse, par exemple, ou au cours d'une échographie.
Par hasard, on découvre ça.
Exactement.
Ouais. Et les douleurs dans les relations sexuelles, ça a des conséquences évidemment terribles pour les couples, j'imagine.
Bien sûr. Alors, c'est tout l'enjeu, en fait, de l'explication de cette maladie, à la fois aux femmes et à leurs conjoints, c'est de bien expliquer que eh bien, s'il y a des rapports sexuels douloureux, il y a un problème et qu'il faut pouvoir les accompagner avec des consultations dédiées.
On ne reste pas comme ça, ce n'est pas normal d'avoir mal quand on fait l'amour.
Ce n'est pas fatal, exactement.
Et du coup, on a une question, je suis atteinte d'endométriose et j'ai des saignements lors des rapports, est-ce que c'est normal?
Alors, là aussi,
ça s'accompagne de saignements?
Alors, il peut y avoir d'autres causes au saignement, bien sûr, hein. Tout n'est pas l'endométriose dans les symptômes gynécologiques, mais il peut y avoir des femmes qui ont ce qu'on appelle l'adénomyose, qui est l'endométriose de l'utérus, et qui est associée à l'endométriose et qui peut être responsable de saignements utérins normaux. Et donc, est-ce que le rapport sexuel peut déclencher des saignements? C'est possible. Mais après, il y a d'autres pathologies. Par exemple, les problèmes de col et de lésions précancéreuses du col, le premier symptôme, c'est justement les saignements post-coïto.
Est-ce que, par exemple, le fait d'avoir de l'endométriose peut faire saigner pendant la grossesse?
Alors, l'endométriose pendant la grossesse, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle est plutôt calme et elle ne va pas forcément provoquer de saignement pendant la grossesse. Alors, il y a des données qui ont montré que les femmes qui avaient l'endométriose pendant leur grossesse avaient plus de métrorragie, donc des saignements du premier trimestre. Par exemple aussi, il y a des données, mais c'est des données très rétrospectives avec des risques très faibles. Il y a des données qui montrent que les femmes qui ont de l'endométriose et peut-être de l'adénomyose ont des risques un peu plus augmentés d'hémorragie de la délivrance au moment de l'accouchement. Mais à nouveau, ce sont des associations de risques qui sont très faibles et ce sont des données rétrospectives qu'il faut interpréter avec précaution.
D'accord, ok.
Depuis quand vous diriez que c'est pris au sérieux, ce sujet ?
Écoutez, les médecins spécialistes qui s'en occupent et les équipes qui ont l'habitude de prendre en charge l'endométriose, elles y travaillent depuis 20-30 ans. Ce qui a changé, je dirais, c'est que depuis une quinzaine d'années, il y a cette prise de conscience des associations de malades, notamment, qui ont fait un travail colossal pour, je pense à l'association Endo-France notamment, qui pour médiatiser, informer, oui. éduquer.
Et notamment les médecins généralistes et les pédiatres.
Oui.
Quand une jeune fille, une adolescente.
Puis l'imagerie aussi a permis de faire un bon diagnostic, grâce à l'imagerie.
Mais je dirais, avant de former les médecins, il fallait que la société comprenne que c'est une maladie qui existe. Et 10% des femmes, il n'y a pas une maladie chronique qui a un tel taux de fréquence comme l'endométriose. Et donc, c'est à partir du moment où on a compris qu'avoir des règles douloureuses ou avoir des symptômes douloureux, ce n'était pas dans la tête des femmes, c'était dans leur ventre et qu'il fallait s'attacher à trouver un diagnostic. Et ça, ça a été le rôle un peu de cette information de la société. Et puis, il y a la formation des médecins. Et la formation des médecins, elle passe par la faculté. Et à l'université, maintenant, il est au programme de l'internat les questions d'endométriose. Et ça va permettre de former toute une génération de médecins qui n'avaient pas cette formation spécifique dans les études de médecine.
Il n'y aura plus jamais, vous savez, les règles, ça fait mal, vous êtes douillette. S'arrêtera.
On ne peut plus l'entendre, ça.
On ne peut plus l'entendre.
C'est fini.
C'est un énorme progrès, déjà. Lily vous dit, j'ai 28 ans, on m'a diagnostiqué une endométriose de stade 4 il y a quelques semaines. J'aimerais lancer un projet bébé. Quel protocole va-t-on me proposer?
Alors, les stades d'endométriose, ce sont des classifications sur la distribution des lésions, il y a des lésions qui sont très superficielles, puis il y a des lésions un peu plus profondes, et puis des lésions très profondes, et donc on définit différents stades.
C'est comment, au scanner?
À l'IRM et l'échographie. Alors avant, on mettait des caméras dans le ventre pour voir s'il y avait l'endométriose. Ce temps-là est révolu.
C'est plutôt une bonne nouvelle.
Vivement l'écoloscopie sans caméra.
Exactement, on ne fait plus. C'est l'échographie et l'IRM maintenant qui ont une capacité d'identifier les lésions qui est devenue tellement bonne. Lorsque c'est fait par des gens qui s'y connaissent, évidemment, parce qu'un médecin qui va faire une échographie, mais qui ne sait pas ce qu'il cherche, qui n'a pas l'information que la patiente a des symptômes particuliers, eh bien, il ne va pas forcément voir les lésions endométriose qui sont difficiles à voir.
D'accord.
À voir, mais qu'on voit très bien quand on sait les chercher.
Donc, quatre stades.
Quatre stades. Et donc, pour répondre à la question de l'auditrice, le protocole, il va dépendre des différents paramètres de son infertilité. Ce n'est pas que l'endométriose qui va guider la stratégie. Mais globalement, la stratégie, elle peut être soit d'envisager une conception spontanée, ce qui est arrivé à Caroline. Alors, bien sûr, ça prend du temps.
Et donc là, par exemple, qu'elle soit stade 1 ou stade 4, vous ne pouvez pas dire
ça
à
dépend, l'avance… Ça va dépendre en fonction de comment fonctionnent ses ovaires, comment fonctionnent les trompes, comment fonctionne l'utérus, comment fonctionne le sperme de son conjoint et est-ce que la rencontre entre les deux graines va pouvoir se faire correctement et pouvoir s'implanter correctement. Mais classiquement quand même, et puis ça va dépendre de son âge aussi, parce que c'est sûr que c'est plus compliqué de concevoir après 35 ans qu'avant 35 ans. Il y a des données très précises qui montrent que la réserve ovarienne se dégrade avec l'âge. Et donc, pour répondre assez rapidement, mais de façon concise, une endométriose sévère, soit on oriente vers de la prise en charge en PMA, avec de la fécondation in vitro, parce que ça marche très bien, soit on oriente vers de la chirurgie. Le problème de la chirurgie, c'est que y a des complications de la chirurgie et que lorsqu'on touche aux ovaires dans cette chirurgie, on sait que ça dégrade la réserve ovarienne et la réponse en fécondation in vitro. Et donc, d'où dans notre stratégie qu'on utilise à Cochin et le professeur Chaperon, qui est notre chef de service, qui a vraiment travaillé sur la réflexion dans la stratégie de la prise en charge de l'infertilité d'endométriose, on essaye vraiment de privilégier la grossesse avant la chirurgie. Et la chirurgie va venir après les grossesses, notamment dans les formes les plus sévères. Et puis, il y a une dernière chose qu'on peut dire aussi, c'est on pourra en parler peut-être après, c'est la préservation de la fertilité, qui est une stratégie de capitalisation d'un potentiel de conception à un certain moment de la vie et puis de pouvoir l'utiliser plus tard lorsque le projet de grossesse...
Ça fait congeler les ovocytes,
exactement, oui.
D'accord.
Justement, parlant de chirurgie, Sabine dit, j'ai entendu dire que l'hystérectomie était efficace pour lutter contre l'endométriose quand on n'a plus ou pas de projet d'enfant. Est-ce que cela est vraiment possible?
Alors, effectivement, lorsque une patiente, une femme a eu son projet de grossesse qui est abouti et qui n'a plus de désir d'enfant, lorsqu'elle est symptomatique, bien sûr, et lorsque les traitements médicaux ne fonctionnent plus ou pas, ou qu'il y a trop d'effets secondaires, parce que, être, comme on disait tout à l'heure, imbibé d'hormones, ça peut avoir c'est compliqué, parfois c'est très désagréable, et donc on va proposer un traitement chirurgical. Et enlever l'utérus, c'est l'hystérectomie, ça peut être proposé lorsque l'utérus est malade, lorsqu'il y a une adénomiose, c'est-à-dire une endométriose de l'utérus. Mais il ne faut pas oublier que lorsqu'on enlève l'utérus, il faut enlever toutes les autres lésions qui sont associées.
Eh oui.
Et voilà. C'est-à-dire que si on n'enlève que l'utérus et qu'on laisse toute l'endométriose autour, ça ne réglera pas le problème.
Oui, ça va aller se mettre ailleurs. Quoi,
exactement. Et donc, on n'aura pas réglé le problème. Et donc, c'est pour ça que cette chirurgie, elle doit être faite dans des équipes qui ont l'habitude de faire ces chirurgies parfois compliquées lorsque le tube digestif est atteint, lorsque la vessie est atteinte, lorsque les nerfs sont atteints. Voilà, c'est compliqué.
Quand même.
Voilà, merci beaucoup à docteur Louis Marcelin, et merci à Caroline d'être venue nous voir dans le podcast des maternelles, ou plutôt dans l'émission La Maison des maternelles. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, si vous avez des idées de thèmes que vous souhaitez voir abordés sous cette forme. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à toutes celles et ceux qui nous permettent de mettre en place ce podcast quotidien. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon moment. Très bon après-midi, très bonne soirée, très bonne nuit. Ciao tout le monde.